On va vous présenter tout le monde au fur et à mesure, même si pour le moment, nous n'avons pas les étiquettes avec les noms, mais nous allons nous intéresser à l'écriture, à la manière dont les auteurs ici présents autour de moi sont arrivés à l'écriture, avec une nuance dans le sujet aussi, pourquoi devenir écrivain. On va aussi voir peut-être la notion professionnelle qui va également intervenir. Et puis, bon, ça nous permettra également de voir un peu le parcours de ces auteurs qui sont présents autour de moi. Et on va commencer par le coup de cœur 2013, Samantha Bailly. D'autant que tu as déjà en partie répondu au sujet cette semaine sur ton blog. J'ai vu passer
un lecteur de blog.
J'ai des scènes lecture. Non, mais il m'arrangeait celui-là.
Ah, bon, très bien.
J'ai vu passer effectivement un sujet où tu parlais justement un peu de tes débuts. Et toi, tu as commencé vraiment à écrire très tôt.
Oui, alors je ne sais pas dans quelle mesure on a chacun commencé ici, mais oui, c'est quelque chose qui est en moi depuis très longtemps. Et vers 14-15 ans, j'avais un site internet que j'avais mis en ligne où je mettais mes écrits. J'avais des lecteurs qui dessinaient les personnages. Enfin, c'était vraiment, vraiment en amateur, mais très convivial. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Et finalement, cette petite communauté web s'est révélée être un soutien très précieux, puisque quand mon premier roman est sorti, on a eu 200 précommandes de parfaits inconnus qui avaient juste entendu parler de moi sur Internet et qui suivaient mes écrits depuis mon jeune âge, on va dire. Et c'était assez incroyable de voir ça, puisque je sortais de nulle part.
L'idée au départ, c'était quoi ? C'était de raconter des histoires comme ça, simplement ?
Alors, c'est une question à laquelle je réfléchis beaucoup, parce que c'est vrai que c'est toujours étonnant de se demander qu'est-ce qui nous pousse à écrire autant de pages. Et quand je retombe sur mes écrits d'adolescence, c'est pas la qualité qui m'impressionne beaucoup, hein, mais c'est plutôt la quantité où je me dis, mais qu'est-ce qui me prenait, quoi ? Qu'est-ce qu'il y avait pour que j'écrive autant ? Et je pense que c'est une continuité du jeu, dans le sens se raconter des histoires. Parce que, je pense, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je jouais avec des figurines, je me racontais des petites histoires quand j'étais enfant. Et vient le moment, vous savez, où la honte se pose sur nous, quand le regard des autres, finalement, devient dérangeant quand on joue et quand on se raconte une histoire à nous-mêmes. Et je crois que, finalement, l'écriture, c'était une façon de continuer à jouer en silence.
Alors, on va continuer à développer ces idées, évidemment, tout au long de cette heure. On va demander peut-être à Marie Pavlenko, même question, finalement. Comment êtes-vous venue à l'écriture ? Ça peut être aussi bien griffonné sur un cahier pendant un cours que...
Alors, moi, je n'ai pas écrit beaucoup adolescent, parce que je pense que j'ai essayé comme... une très très grande majorité de gens, et je trouvais que c'était nul, donc j'ai vite laissé tomber. En revanche, je suis devenue journaliste, et pendant 15 ans, j'ai écrit des articles qui ne sont évidemment pas des récits et qui ne sont pas structurés de la même façon, mais j'ai écrit sur tout et n'importe quoi, et j'ai écrit énormément, 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 et je pense que ça m'a dérouillé la plume. Et quand j'ai eu mon deuxième enfant, en fait, j'ai eu envie de renouer, je pense, avec une part de mon enfance, parce que ça, c'est un petit peu ça quand même, quand on écrit, en tout cas, je pense, dans les univers de l'imaginaire. Et puis j'ai rencontré un éditeur qui m'a proposé d'éditer un livre que j'ai écrit. J'ai jamais écrit en blanc. Voilà, parce que je trouve que c'est beaucoup trop difficile. Voilà, et j'ai écrit tard, et je suis très contente, parce que je pense que j'aurais eu moins de choses à raconter, moi, plus jeune.
On va revenir sur tout ça là aussi. On va s'intéresser au parcours de Lucius Shepard, qui est assez particulier. Lucius, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes venu à l'écriture ? Can you tell us how you
became a writer ? Oh, yeah, it wasn't my profession of choice. When I was three, my father started teaching me how to read, and he had been a failed writer, and he determined that I would be a writer at an early age, and so gave me a classical education that probably by the time I was 12 or 13 years old, I had a college-level education in the classics, and... when I was 14, I got strong enough and big enough to reject the program. So after that, I spent 20 years trying not to be a writer in order to piss him off, you know, so, you know.
Donc Lucius Shepard nous dit que c'était pas son choix de profession, mais en fait son père était un écrivain raté qui a voulu faire de lui un enfant prodige et qui lui a appris à lire alors qu'il n'avait que 3 ans. Et donc petit à petit, il l'a forcé à ingurgiter les classiques, à lui faire lire tous les classiques de la littérature, si bien que lorsqu'il a eu l'âge de 12-13 ans, il avait le niveau faculté, quoi, un niveau licence ou maîtrise. Et à partir de 14 ans, Lucius a été assez fort physiquement pour repousser l'éducation que son père voulait lui faire acquérir de force. Et ensuite, il a passé les 20 années suivantes de sa vie à essayer de faire tout sauf devenir un écrivain.
And so then I spent the next 20 years being a rock and roll musician and a journalist and a war correspondent and various other, you know, professions that weren't really that legal. And finally, at 34, I figured that rock and roll wasn't working out for me, so I started writing.
Donc, les 20 années suivantes durant lesquelles il a cherché à ne pas être un écrivain, il a fait un peu tous les métiers. Bon, il a été musicien de rock. Bon, j'ai lu par ailleurs dans une de ses autres texte que ça a failli marcher. Ils ont fait quand même quelques dates assez intéressantes des premières parties, etc. Et bon, ceux qui connaissent bien Lucius Shepard, qui ont lu ses textes, trouveront un écho de ça dans sa nouvelle Des étoiles entrevues dans la pierre. Il a été aussi journaliste, correspondant de guerre. Il s'est beaucoup déplacé. Il a beaucoup visité il a beaucoup roulé sa bosse, l'Amérique centrale, l'Europe. Il a vécu un temps en Espagne, l'Asie du Sud-Est, etc. Bon, il a fait divers métiers, parfois aux marges de la légalité. Et puis finalement, arrivé à l'âge de 34 ans, il s'est rendu compte que l'Europe qu'il occupait à ce moment-là, ça marcherait pas. Et donc, contraint et forcé, il est devenu écrivain.
Contraint et forcé, ça m'est une belle réflexion sur laquelle sans doute on va revenir dans quelques minutes. Sylvie Denis, bah, même exercice, comment est-ce qu'on en vient, il va falloir voler le micro de Jean-Daniel, comment est-ce qu'on en vient à écrire d'abord avant même de songer à être écrivain?
En ce qui me concerne, j'ai commencé à écrire vers l'âge de 10 ans à peu près, essentiellement pour commencer des poèmes. Et des nouvelles vers l'âge de 13-14 ans après avoir découvert la science-fiction. J'avais préalablement décidé que ce que je voulais faire c'était écrire des histoires, c'était raconter des histoires, raconter des choses.
Avec vraiment l'ambition un jour que ça devienne un métier.
Relativement, dans la mesure où fort peu de choses m'intéressaient par ailleurs, à part éventuellement l'anglais et les langues étrangères.
Donc après, contraint et forcé, c'est par défaut cette fois-ci.
Disons que quand on a du mal à trouver un investissement dans quoi que ce soit d'autre, sinon une obligation, du moins, c'est ce qu'on finit par faire.
Et est-ce qu'on se dit, justement, lorsqu'on commence à écrire comme ça, parce qu'on entendait Marie tout à l'heure qui disait qu'elle trouvait ça assez mauvais, qu'elle avait tendance à jeter tout ce qu'elle faisait, est-ce qu'on a un regard critique sur ce qu'on écrit quand on a...
J'ai un regard critique tout le temps, surtout, donc, y compris sur moi-même. Donc oui, bien sûr, oui. À moins d'avoir bénéficié d'un ego absolument extraordinaire, la plupart des gens, je pense, passent par des périodes de doutes diverses et variées avant d'arriver à faire ce qu'ils veulent ou à être satisfaits de ce qu'ils ont fait.
Samantha, justement, est-ce que ça s'apprend, devenir écrivain?
Oula. Je pense que tout s'apprend.
Où est-ce qu'il y a une ligne directrice finalement entre la Samantha d'il y a une dizaine d'années qui justement éditait ses textes, enfin éditait les postait sur Internet.
C'est une évolution, mais je pense que ça part d'un même désir de base. désir qu'il va avoir tout un tas de fluctuations parce que voilà, comme ça a été évoqué, on traverse des phases de doute, de remise en question. Ça dépend aussi du contexte dans lequel on évolue, de ce qui va nous nourrir intellectuellement et de ce qu'on va avoir envie de raconter. Donc forcément, ça, on a des variations sur les thématiques, sur la façon dont on peut aborder ça. En l'occurrence, j'ai vraiment une phase où je me suis dit « je ne ferai jamais qu'écrire ». Et voilà le résultat. Donc bon, maintenant, je ne jure plus de rien.
Mais dans le fameux billet de blog que j'évoquais tout à l'heure,
tu disais, billet de blog.
Oui, je nourris mes questions. tu disais quand même que tu avais beaucoup posé de questions à des auteurs.
Oui, c'est vrai que surtout de cette génération qui a grandi avec Internet, voilà, qui est la mienne, où on avait déjà un espèce d'accès potentiel aux personnes qui écrivaient. Et c'était, j'allais pas à des salons, en fait. J'étais perdue dans ma Normandie profonde, donc j'avais pas ce contact. Comme je vois là des adolescents qui vont aux Imaginales, qui questionnent les auteurs. Donc j'avais pu envoyer quelques mails et j'ai écrit ça sur l'article pour dire que pour moi l'accessibilité c'est quelque chose d'important en tant qu'auteur, dans le sens chacun y voit son point de vue, mais le lien qui existe encore avec celle d'il y a 10 ans, c'est que je me suis toujours dit que je répondrais à tous les mails qu'on m'envoyait et que finalement je donnerais ce qu'on m'a pas forcément entre guillemets donné à l'époque, qui est finalement une attention. Et après, voilà, on reçoit... Je ne peux pas lire les manuscrits, forcément, des gens que je reçois. Mais si on peut répondre à une question sur ce qu'est ce métier et participer à la curiosité, c'est toujours un plaisir.
Marie Pavlenko, donc, le journalisme d'abord, pour se faire la main. Et puis, à un moment, un passage vers autre chose, finalement. Est-ce qu'on se sent devenir écrivain à ce moment-là ou est-ce que c'est plutôt encore assez flou?
Alors, moi, j'ai l'impression qu'on ne devient pas écrivain. Ça vient de l'extérieur. C'est-à-dire qu'un jour, quelqu'un vous dit voilà, t'es écrivain, quoi. T'es un écrivain. C'est un peu. C'est pas comme une médaille, mais c'est quelque chose qu'on gagne aussi avec l'expérience. Voilà. Et même si les deux exercices sont différents, ils ont aussi une continuité. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que le journalisme m'a nourri, a vraiment voilà, affûté mon écriture. Ensuite, pour bâtir un récit, j'espère que je progresserai jusqu'au dernier bouquin, quoi, parce que l'écriture, on écrit tous pour faire notre liste de courses. Donc on a souvent l'impression que c'est quelque chose d'instinctif, mais en fait, c'est assez compliqué, ça se construit, ça se travaille et ça tombe jamais comme ça de l'arbre d'un seul coup, quoi. Voilà.
Et ça n'arrive pas sur le bulletin de paye avec marqué écrivain.
Voilà, exactement.
Lucie Shepard, vous venez nous expliquer ô combien votre arrivée à l'écriture a été difficile, pénible, et pourtant, après avoir longuement cheminé, après avoir cherché d'autres pistes, vous y êtes revenue.
La question, c'est quoi ?
Est-ce que vous pouvez imaginer que ça puisse surprendre ?
Can you imagine that we're a bit surprised by your kind of background, you know? First not being to be not wanting to become a writer and then becoming a writer. How can you explain that you decided to become a writer after all?
It was better than being a garbage man. You know, it was sort of my only choice after a while. I was 34 when I sold my first story, and I'd run out of options. I couldn't be a drug dealer because I was, we get to jail. I couldn't be a rock and roll singer. Well, I could have been, but like I could have been a lousy one. And I couldn't be a war correspondent because there wasn't a war going on at the time. So, you know, I was sort of a writer. Yeah.
Pardon.
Bah, en fait, il n'avait plus tellement le choix. Et puis, devenir écrivain, c'est mieux que de devenir éboueur. C'était son seul choix à 34 ans, parce que bon, il aurait pu devenir un dealer, mais bon, c'est dangereux, on risque de se retrouver en tôle. Donc le boulot de chanteur de rock, il s'est aperçu que finalement ça marchait pas. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de guerre, donc il ne pouvait pas être correspondant de guerre. Donc voilà, c'était devenir un écrivain ou rien.
Mais ça veut dire quand même que ce que... Est-ce que vous pensez que ce que votre père vous a appris, vous a servi malgré tout? Ou est-ce que finalement c'est aussi la rébellion contre ça qui vous a permis de devenir écrivain?
Do you think that the teachings of your father were, in the end, at the end of the day, they were useful to, the,
well,
to you?
He,
or?
Yeah, no, I mean, I mean, it worked for me, but it was at the cost of my childhood, so, you know, I basically, it's kind of a wash, you know, and, but yeah, my father, he gave me the ability to know the English language really well, and like, and then I, for 20 years, I picked up a whole lot of stories, you know, after that, you know, so, you know, there I was.
En fait, oui, il est bien obligé de le reconnaître que ça, ça lui a été utile, ça lui a servi, mais ça a été au prix de son enfance. Il n'a pas eu d'enfance. Hein. Du moins, il a eu une enfance très, très dure. Bon. Mais il doit reconnaître que ça lui a donné la capacité d'apprécier, de connaître et de maîtriser la langue anglaise.
Et ce sont les conditions, finalement, qui ont changé entre votre enfance et votre âge adulte, entre ces deux périodes d'écriture. Est-ce que, aussi, ce n'est pas une... certaine manière, la liberté que vous avez pu avoir une fois adulte autour de l'écriture qui vous a permis vraiment de devenir écrivain.
Maybe what has changed between your childhood and your maturity is the working conditions. Maybe right now your working conditions are not coercive and you feel more, you feel freer to write what you want.
Yeah, I mean... I don't know, when I started writing I was... I was married, and I had a kid, and shortly after I started writing, I was divorced and didn't have a kid anymore, and, like, so I think that probably, you know, being alone in the world, you know, like, it sort of acted to say, oh, you know, like, you know, I better do something, you know, so I think, you know, now, I mean, it's like, you know, I've been doing it for 30 years, and, like, it's second nature, but, like... And there's a lot of upside to it. You know, you don't have anybody telling you what to do, and you know. But I don't. When I transitioned between musician and writing, I just, you know, it was basically a matter of having to do it. You know, than any freedom. You know, so.
Oui, ben en fait, bon, ces conditions de travail, ces conditions de vie ont pas mal évolué. Là, quand il s'est vraiment décidé à se lancer dans l'écriture, quand il a vendu sa première nouvelle, hein, il était marié, il avait un enfant, et puis très très vite, il a divorcé, il s'est retrouvé sans enfant à charge, il s'est retrouvé donc tout seul, et donc eh ben, je suis bien obligé de faire quelque chose, je suis bien obligé de me débrouiller, de trouver une profession. Donc il est devenu écrivain un peu contraint et forcé, comme je le disais, et au bout de 30 ans, quand il fait le bilan, bon, ben, c'est effectivement, ça lui donne une certaine liberté, puisqu'il n'a pas de patron, il est lui-même son propre patron, et c'est en fait, c'est l'essentiel pour lui, je pense, qui fait la nature de ce métier, quoi.
My life was used to be very interesting, you know, like but since I become a writer, it's rather boring, you know, like, so I kind of miss the old stuff, but I don't miss the anxiety that goes with it, you know, quite as much, you know.
Bon, et il conclut en disant qu'avant qu'il devienne écrivain, il menait vraiment une vie très, très, très intéressante et très agitée, et depuis qu'il s'est mis à écrire de façon intensive, hein, sa vie est très, très, on va dire, barbante, hein, pour être gentil, mais au moins, il y a beaucoup moins de stress, quoi.
Quelque chose à retenir. Vous n'êtes pas trop stressé, Sylvie Denis, alors, par rapport au métier d'écrivain? Vous ne le trouvez pas stressant, ce métier d'écrivain?
C'est moins très stressant que d'être prof, par exemple, pour dire un exemple de quelque chose que j'ai fait pendant presque une vingtaine d'années.
Alors justement, comment le passage de l'adolescente qui écrit à l'adulte qui devient véritablement professionnellement un auteur?
J'ai beaucoup de mal à parler de professionnel dans la mesure où l'essentiel de mes revenus vient quand même de la traduction, et dans la mesure où, il ne faut pas se mentir, en France, à part quelques exemples exceptionnels, c'est le cas de la plupart des auteurs. Ça n'empêche pas d'avoir une attitude par rapport à ce qu'on fait qui j'espère, relève d'un certain professionnalisme. Comment est-ce qu'on passe de l'adolescent à... Disons que ça s'est fait progressivement. J'ai commencé par écrire essentiellement des nouvelles pendant pas mal de temps. En grande partie parce que c'est ce que je préférais en tant que lectrice. Parce que je pense que c'est le meilleur vecteur pour la science-fiction et pour une bonne partie de la fantasy et des choses assimilées. Donc c'était par goût. Et puis parce qu'aussi j'avais lu des quantités de biographies de divers auteurs et qu'ils avaient tous commencé par écrire des nouvelles et par publier par des revues. Mais j'avais pas compris que c'était aux États-Unis et qu'en France ça marchait pas tout à fait pareil. Donc je pensais que c'était ça qu'il fallait faire. Et c'est ce qui s'est. C'est comme ça que j'ai publié mes premiers textes avant d'écrire un roman, mais que j'ai écrit relativement tard, si on peut dire.
Alors, justement, on l'évoque en partie, mais c'est pas tout de dire je veux devenir écrivain. C'est qu'à un moment, faut pas que le texte il reste dans un tiroir d'un bureau. Il faut qu'il franchisse une étape supplémentaire. Cette étape, c'est l'éditeur. Samantha, comment ça s'est là aussi passé? Est-ce que un jour, on se dit tiens, je vais essayer pour voir? Je vais envoyer un manuscrit à un éditeur et puis on va voir ce qui se passe.
Oui, c'est sûr. Je pense que quand on a cette démarche, c'est toujours un peu une bouteille jetée à la mer et on n'a vraiment aucune idée de si un jour la bouteille sera ouverte par quelqu'un. Moi, je devais être un peu bizarre à l'époque parce que je m'étais dit, bon, je vais faire des études de lettres parce que c'est ce qui se rapproche le plus de ce que je veux faire pour faire plaisir aux parents, histoire qu'ils laissent un peu tranquille le temps voilà, que quelques années passent, en me disant, bon, si je veux, entre guillemets... disons composer avec le réel à ce moment-là, si je veux faire ça de ma vie, écrire, il y a une équation qui rentre vite en ligne de compte qui est bon, alors il faut du temps pour ça, mais bon, il faut de l'argent aussi pour payer son loyer, donc il faut travailler, donc à un moment donné, on est face à un problème. Alors il faudrait que j'essaye de publier quelque chose un jour ou l'autre, parce que finalement, c'est le seul moyen qui me rapprochait de mon rêve, qui n'était pas spécialement d'être publié, mais qui était de pouvoir consacrer le plus de temps possible dans ma vie à ce que j'aime. Donc c'était vraiment ça la problématique. Donc j'ai envoyé à plusieurs éditeurs, à des grands éditeurs qui ne m'ont jamais répondu et j'ai eu la chance d'avoir un petit éditeur qui s'appelait Mille Saisons à l'époque, qui a publié Oraison, qui était à l'époque un diptyque en 2009. Donc j'avais réussi ma première étape, qui était de publier un premier roman pour mes études. Et ensuite j'ai travaillé en continuant à publier tout le long.
Avec justement... une idée particulière, quand on vous entend, c'est qu'il n'y a pas forcément la volonté d'être lu chez vous.
Alors, je pense qu'elle existe, enfin, elle est là, et voilà, on ne peut pas contredire que quand on sort un livre, c'est qu'on a quand même un minimum envie que quelqu'un le lise. Mais mon rapport à l'écriture, c'est vraiment plutôt mon fonctionnement interne et qui est vraiment profondément lié à ça. C'est ma façon d'accepter le réel, de le réinvestir et de créer voilà, à chaque fois une entité, un monde... Avec son propre fonctionnement et c'est ce qui me fait plaisir tout simplement. Et voilà, pour en revenir à ça, il y a toujours des moments de douleur, je pense, quand on écrit un roman, des moments où on recommence, on recorrige, etc., qui sont durs, mais ce que j'adore, c'est cette petite étincelle du départ, c'est cette idée, c'est la façon de la construire, et même s'il y a énormément de travail derrière et de centaines de pages jetées, etc., c'est ce plaisir que j'ai voulu chérir et conserver.
Marie Pavlenko, pareil, même question. Alors ce passage, justement, vous, c'est un petit peu différent, puisque effectivement, les textes étaient, même s'ils n'étaient pas forcément des textes de littérature, ils avaient déjà une publication par le biais du journalisme. Comment est-ce qu'on arrive justement à l'édition? Est-ce que c'est un coup de culot? C'est une envie de savoir finalement?
Un coup de bol, en ce qui me concerne. Voilà.
C'est bien aussi.
Voilà. Non, en fait, il y avait... Enfin, moi, j'ai toujours voulu écrivain, mais en me disant que ça n'arriverait jamais. C'était vraiment une espèce d'éden comme ça que voilà, j'attendrai jamais. Et puis, quand j'ai décidé de faire autre chose, et donc, et c'était autour de l'histoire, raconter des histoires. Et je me suis, en fait, j'ai rencontré des gens et j'ai eu un agent et j'ai travaillé pour la télé et le cinéma. Et c'est cet agent qui m'a conduit vers mon éditeur. Et maintenant, je fais quasiment plus de télé et de cinéma et je fais...
Mais parce que cette agence savait que vous écriviez
C'était mon agent de télé et ciné, voilà.
Et justement, Vous vous attendiez à quoi? Parce que même si là il y a le contact, le coup de bol, ça crée la rencontre avec un éventuel éditeur, mais ça ne garantit pas forcément que le livre voit le jour.
Alors, en l'occurrence, j'ai rencontré l'éditeur de Scrineo, qui voulait me faire un bouquin à la base de journalisme. Je lui ai dit que non, parce que bon, moi j'en faisais quand je voulais, enfin voilà. Et il m'a dit qu'il lançait une collection de jeunesse fantasy. C'était un hasard pur. Vraiment, quand je dis coup de bol, il y a un vrai... Et je lui ai dit, bah, ça tombe bien, j'ai une idée. Et donc, je lui ai pitché mon idée et je lui ai fait lire des trucs que j'avais écrits et il m'a donné un contrat. Enfin, je veux dire, ça s'est vraiment passé dans l'autre sens. J'ai écrit le livre avec le contrat et je pense que, honnêtement, j'aurais pas eu la force de le faire sinon. Voilà, c'était mon indispensable carotte et ça m'a poussée à le terminer très très vite. Le premier tome de Saskia, c'est un livre que j'ai écrit en 4 mois, ce que je ne ferai plus maintenant, en me brûlant les doigts pour savoir si j'étais capable, parce que c'est un plaisir, mais c'est aussi une épreuve, enfin en ce qui me concerne en tout cas.
On reviendra peut-être justement sur les difficultés. On ne va pas non plus dresser un paysage complètement rose de la situation. Lucie Shepard, vos relations avec les éditeurs, là aussi, ça s'est passé de quelle manière?
I was sitting around the house, you know, after the breakup of my last band, and I was really depressed, and I was watching a lot of Christian programming on television. The preacher told me to put my hands on the TV set, and I did, and that scared me. And like, my wife, I sat down and wrote half a story, and my wife sent it into the Clarion Workshop. I will explain what. And to get me, hoping to get me out of the house, I think. And like, I went to the workshop that summer, and Terry Carr, the late editor Terry Carr, the workshop head sent him a story I'd written there, and so he bought it, you know. And after that, it was, you know, pretty much smooth sailing, you know. But like, it was quite a shock to me, you know, because, you know, I don't know, wasn't expecting it. Oh, yeah. That's right.
Donc Lucius nous explique à cette époque-là, il venait son dernier groupe en date venait de casser, quoi. C'était fini, l'aventure était finie. Et donc il se retrouvait à ne rien faire chez lui. Bon. Et il s'est retrouvé fasciné par les émissions religieuses à la télé américaine. Il commençait à avoir vraiment très très peur quand il avait envie de poser la main sur la télé comme le demandaient les pasteurs. Bon, c'était assez cauchemardesque. Et il avait commencé, sans trop y croire, à écrire un texte de fiction qui était à moitié fini. Et sa femme, qui avait entendu parler des ateliers d'écriture Clarion qui se développaient à l'époque aux États-Unis, a envoyé son manuscrit à un atelier Clarion pour le faire inscrire. Alors, donc un peu de background. Les ateliers d'écriture, ça commence à se faire connaître en France, il commence à y en avoir un peu partout, mais aux États-Unis, ça date des années 70-80, et à l'époque, dans le monde de la science-fiction, c'était quelque chose de très très fort, de très très structuré, qui était l'œuvre plus ou moins de deux grands écrivains, qui s'appelaient Damon Knight et Kate Willem, qui ont formé quantité de jeunes écrivains, dont Lucius Shepard. Et donc, quand ils ont reçu son texte, ils lui ont dit « oui, venez, venez », donc il s'est inscrit, il a passé l'été dans des ateliers d'écriture, à échanger des impressions avec de jeunes écrivains, etc. Et parmi les professionnels de la science-fiction qui venaient donner des cours ou donner des conseils aux débutants, il y avait un très grand anthologiste et directeur littéraire qui s'appelait Terry Carr, qui a développé énormément de talents et qui a lu l'histoire de Lucius Shepard et qui l'a acheté pour une de ses anthologies. Et donc, à partir de ce moment-là, ça l'a fait connaître, et les choses se sont plus ou moins très très bien déroulées. Alors, je rajoute, hein, peut-être que Lucius va en parler, que Terry Carr a eu l'occasion après de diriger une collection de romans, et que c'est dans cette collection qu'il a publié le premier roman de Lucius Shepard, Les yeux électriques, et qu'il a aussi publié Nos romanciens de William Gibson.
Sylvie Denis, là aussi, le passage obligé, finalement. Est-ce que vous y pensiez au départ, quand vous avez commencé à écrire les poèmes à l'édition?
Les poèmes, non, parce que j'avais 10 ans. Donc,
mais plus les nouvelles derrière.
Mais les nouvelles, oui. À partir de 14-15 ans, oui. Quand j'avais 14-15 ans, il y avait des revues comme Fiction, comme Univers, et j'ai eu très très vite envie de publier. Pour moi, la chose qui disait qu'on était un vrai écrivain, c'était d'être publié. Donc c'était ça la barrière à franchir. Donc j'ai envoyé des nouvelles à Univers sans jamais y arriver. J'ai eu un certain nombre de nouvelles publiées. Alors au départ dans des fanzines, dans des anthologies, pendant un certain nombre d'années. Avant, j'ai aussi dirigé des anthologies, etc. Avant d'écrire, j'ai écrit des romans pendant ce temps-là, mais qui n'ont pas été publiés jusqu'à ce que j'écrive à Haute École. Bon, j'ai mis un certain temps à l'écrire, et c'est Haute École qui a été mon premier roman publié. Donc c'était en 2003.
Et vous aviez donc déjà un bon pied dans le milieu
de l'édition. Voilà, j'avais déjà pris des contacts, rencontré des gens, croisé des gens. Par le fait d'avoir fait diriger une revue, enfin co-diriger une revue et diriger des anthologies.
Et la sensation est différente d'avoir un livre avec son nom dessus que quand on a une nouvelle publiée dans un fanzine?
Ma sensation personnelle, pas tant que ça en fait. Par contre, le
regard des autres,
le regard des autres change, hélas, dirais-je. c'est triste qu'on remarque moins les gens qui écrivent des nouvelles que les gens qui écrivent des romans. Mais bon, c'est un fait que
c'est une vision très française. Hein. C'est beaucoup moins le cas chez les anglo-saxons.
Oui et non. Ça se discute.
Bon, enfin, la chose est là, ça veut dire que c'est à partir de ce moment-là, vraiment, au moins que vous vous êtes vu dans le regard des autres comme un écrivain.
Comme un écrivain, oui, il me semble que c'était quand même déjà le cas, parce qu'au moins, Jardin Virtuel, le recueil était déjà paru, mais comme quelqu'un capable d'écrire des romans, oui. Oui. Et donc quelqu'un de plus sérieux, enfin, Dieu sait ce que ça veut dire. Hein. Mais c'est vrai que le fait de publier des romans attire plus le regard que des nouvelles qui sont par nature, la plupart du temps, éparpillées sur divers supports dans le temps, etc.
Samantha, Stéphanie, ce matin, dans le café littéraire d'ouverture, a un petit peu parlé du parcours qui a été le tien ensuite.
Elle est très bien documentée.
C'est vrai que elle connaît un peu le sujet. Mais c'est vrai qu'il y a eu un enchaînement. Marie parlait de coup de chance. Là, il y a aussi eu un enchaînement très particulier.
Oui, qui peut paraître assez logique du coup d'extérieur, mais d'intérieur, c'est vrai que c'est particulier puisque j'avais déjà publié donc chez un petit éditeur mon premier roman qui a eu assez tardivement le prix des lycéens puisqu'il y avait eu un petit couac avec les Imaginales une année précédente où il avait été retiré de la sélection. Du coup, après, ils l'ont remis l'année suivante. Et finalement, il a eu ce prix. Et c'est un peu ce qui m'a lancé, comme on peut dire, dans le sens où, en effet, certains regards changent. Ou en tout cas, peut-être le fait qu'on voit plus souvent un certain nom pour un éditeur fait que ça attire une attention. Et du coup, l'année dernière, pendant les Imaginales, en fait, j'ai perdu mon éditeur mi-saison qui a fermé ses portes. Donc, ça s'arrêtait quelque part, puisque voilà, c'était une aventure humaine de 5 ans. La micro-édition, c'est beaucoup de bénévoles, en fait, qui font ça sur leur temps. Et à un moment donné, où même si ça marchait plutôt pas mal, ils ont envie de gagner plus d'argent et de faire autre chose, ce que je comprends, et je leur souhaite beaucoup de bonheur. Mais du coup, c'était une situation particulière. Et du coup, l'année dernière, aux Imaginales, j'étais à côté d'une auteure de chez Brajlon qui s'appelle Magali Segura, qui m'a dit « Mais va parler à Stéphane Marsan. » Va lui parler 2 minutes, il cherche des nouveaux auteurs, etc. Donc déjà, j'avais pas très envie parce que j'avais pas envie de dire bonjour, j'ai plus d'éditeur. Enfin bon, voilà, toujours le truc un peu. Mais je l'ai fait, j'ai échangé 2 mots avec lui en disant bonjour, je m'appelle Santa. Il fait oui, je sais qui tu es. Je fais, donc voilà. Donc ça faisait un moment qu'il regardait aussi ce que je faisais. Et du coup, il m'a proposé de lui envoyer des romans, donc mes romans de fantasy, mais surtout un roman contemporain. Je lui ai dit, mais t'es sûr que tu veux lire? Il fait, si, envoie-moi. Bon. Donc, je trouvais ça un peu bizarre, mais je lui ai envoyé. Et en fait, c'est ce roman contemporain, Ce qui nous lie, qui paradoxalement m'a ouvert les portes. Pardon, je crie un peu. M'a ouvert les portes de Bragelonne, parce que c'était le coup de cœur de Stéphane Marsan, qu'après il a lu ce que j'ai fait en fantasy. Du coup, c'est un enchaînement de circonstances, de rencontres, voilà, qui a créé ça.
Est-ce que justement, quand on a publié un roman à tout juste 20 ans, dans une petite maison d'édition, même qu'on arrive à avoir un prix dans un salon comme Les Imaginales, est-ce qu'on est déjà pris au sérieux ?
J'espère. Mais je pense, après, la jeunesse, c'est toujours un truc qui est un peu fatigant à entendre au bout d'un moment, parce qu'on vous dit « Ah, alors, c'est votre premier roman ?» Non, non, en fait, c'est le cinquième. Et au final, moi, ça fait 5 ans que je publie des romans, même si, évidemment, que je suis jeune, voilà. Mais j'espère évoluer quand même, progresser. Je sais que, comme tu disais tout à l'heure, Marie, on progresse toujours et on le souhaite. Mais il y a un moment donné où moi, je me sens pas genre débarquée non plus et pas sérieuse, en tout cas. Et finalement, je pense que ça dépend aussi de la propre vision qu'on renvoie aux gens. Si à un moment donné, on dit, voilà, c'est ce que j'aime faire et j'essaye de le faire sérieusement, je ne sais pas si j'y arrive, mais en tout cas, j'essaye. Je pense que les gens voilà, ne voient pas de raison pour qu'on mente. Ouais.
Marie, c'est un peu le même sujet, mais voilà, est-ce que justement, une fois qu'on a entre les mains le livre, est-ce que...
On pleure. De joie.
Bon, j'ai une bonne chose. On le présente à tout le monde.
Voilà.
Et tout.
Le bébé. Voilà, il est né, le bébé.
Est-ce qu'on se sent écrivain à ce moment-là ?
Alors moi, non. Je pense que ça dépend des gens, mais moi, je ne me sens pas du tout écrivain.
Même pas encore aujourd'hui ?
Moi, ça commence vaguement. Mais et Victor Hugo était un écrivain. Moi, je ne suis pas un écrivain. Voilà.
Il ne faudra pas attendre que vous soyez morte depuis 200 ans pour être un écrivain.
Je ne sais pas. Mais bon, c'est un peu un gros mot quand même. Un peu sacralisé, en tout cas, pour moi. En tout cas, voilà.
C'est plus finalement le mot et ce qu'il peut y avoir derrière qui un peu vous impressionne.
Oui, auteur et me paraît plus à ma mesure, bizarrement. Alors, je pense que ça dépend vraiment des gens. Hein. Mais comme je fais aussi des scénarios de BD, etc., c'est un truc un peu transversal qui... Voilà, qui est moins, plus modeste, quoi. Et je me sens mieux dans ce blouson-là que celui de écrivain.
Bon. C'est bien parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui se présentent comme des écrivains alors qu'il ferait mieux de faire l'inverse. Mais vous avez l'honnêteté. Lucie Shepard, là aussi un peu, est-ce que. Quand avez-vous commencé vraiment à vous sentir écrivain ? Si c'est le cas.
It's the nature of my personality to really not think about that too much. I still feel like I'm just getting over on people, like I'm not really a writer, I guess I recognized that I was a writer when I won the Hugo, like that sort of validated it. But it didn't. I remember being very drunk and throwing the Hugo up in the air, and that's my basic memory of it. But probably then, I guess that's about the time I did. But mostly I don't feel like a writer. I just feel like someone sitting in my room, scribbling,
Lucius nous dit que c'est peut-être une conséquence de sa personnalité, de son point de vue sur les choses, mais il pense pas trop à ce genre de choses. Est-ce que je me sens un écrivain ou non ? Est-ce que je suis pas un écrivain ? Sans doute, ça a été une étape décisive pour lui. Il s'est vraiment senti comme un écrivain le jour où il a remporté le prix Hugo. Bon, si vous le connaissez pas, c'est le plus grand prix de science-fiction au monde. Surtout aux États-Unis. Bon, il a remporté ça pour un récit qui s'appelle Bernacle Bill, le spatial. Et donc là, c'est ce dont il se souvient de la cérémonie, à part le fait qu'il était complètement bourré quand il a accepté le prix. Bon, mais ça doit être sans doute l'étape décisive. Mais la plupart du temps, bon, il a l'impression d'être quelqu'un qui reste enfermé chez lui à noircir du papier, et puis c'est à peu près tout, quoi. C'est quelqu'un de très modeste. Hein.
Jean-Daniel, est-ce qu'il y a justement, comme le faisait Marie, la distinction pour les anglo-saxons entre un auteur et un écrivain ?
Yeah, he's asking me if there is the same difference in English about between an author and a writer.
I'm going to answer. Oui, mais personnellement, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Et en fait, non, mais je pense que c'est pour chaque personne, en fonction de son point de vue sur l'écriture et sur le métier. Bon, la réponse de Marie était très, très cohérente. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont le même avis.
C'est
bon,
un peu ce qu'on met derrière le mot écrivain, parfois.
Voilà, ouais. Mais je pense qu'on interroge deux écrivains ou deux auteurs sur la même question et répondons différemment.
Ou le même à un âge différent. Donc...
Bah Sylvie, gardez le micro. Là aussi, oui, il y a cette distinction chez vous, ou est-ce que c'est encore quelque chose de différent? Est-ce qu'on peut dire à un moment, bah voilà, je suis passé peut-être du statut d'auteur à celui d'écrivain, ou est-ce que je l'ai encore en ligne de mire, j'espère y arriver un jour?
J'ai totalement, honnêtement, je ne suis pas sûre d'avoir jamais réfléchi dans ces termes-là. Et j'en suis à un point où, dans ma vie où honnêtement ça me préoccupe absolument pas. Je fais ou je fais pas, c'est tout. C'est à peu près tout.
C'est l'envie qui doit dominer, c'est le plaisir de faire.
Non, en ce moment c'est un moyen comme un autre de rester en vie. Je passerai sur les détails.
Samantha, il y a quand même une question aussi que Sylvie d'ailleurs a un petit peu abordée tout à l'heure, mais c'est et puis toi aussi, c'est qu'il faut bien vivre à un moment.
Oui, c'est mieux. Oui.
Il faut quand même arriver à gagner un petit peu sa vie. Ouais. Est-ce que là, justement, il y a aussi des choix qui s'opèrent? Est-ce qu'on est obligé de prendre parfois des décisions dans un sens comme dans un autre d'ailleurs, puisque
je pense que depuis peu,
tu as choisi vraiment d'être à 100%.
En fait, je me suis pas dit je vais vivre de l'écriture d'un coup. C'est qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que chaque mois, je pouvais payer mon loyer et vivre avec. Donc, je me suis dit, enfin, j'ai passé un moment avant de l'accepter, jusqu'à ce que mon copain me dise, mais tu te rends compte qu'en fait, là, tu peux ne faire que ça. Et donc, je l'ai accepté tout en sachant que c'était une prise de risque. Et en même temps, des angoisses, on en a toute sa vie. Je me suis dit, allez, j'y vais. Et en fait, c'est possible parce que j'ai vraiment plusieurs contrats avec différents éditeurs, aussi avec des romans que j'ai écrits avant. Donc forcément, quand on les signe et qu'on ressent la valoir, j'ai quelques manuscrits en stock qui permettent ça. Mais au final, pour le moment, on verra comment ça se passe. Ça se passe plutôt bien, dans le sens où moi, j'ai pris une décision, c'est que j'ai vraiment refusé des projets de commandes bien payés qu'on m'a donnés parce que j'avais pas envie de l'écrire, en fait, et qu'il y a un moment donné où on est face à cette question de l'alimentaire, et bah, je préfère retrouver un boulot normal que d'écrire un roman que j'ai pas spécialement envie d'écrire, en fait. Alors parfois, la commande, la contrainte, c'est intéressant parce que ça nous met face à des nouvelles questions. C'est bien d'être aussi un peu bousculé dans ses repères, etc. Mais en tout cas, je veux vraiment ne faire que les projets qui sont viscéraux, qui me tiennent à cœur, et de me lancer dedans. Et j'ai la chance avec Brajlan d'avoir un éditeur qui m'accompagne aussi dans cette démarche et qui me dit « Ok, on y va. » Mais t'es sûr ? Oui, allez, on y va. Et bah, il n'y a rien de plus plaisant que d'avoir ce soutien-là aussi à un moment donné de quelqu'un qui critique, qui nous remet en perspective, mais qui sait aussi dire à un moment donné bah, « Il faut que tu vives et on va te donner les moyens d'en vivre. » Donc
avec une liberté, finalement.
Oui, et j'aurais... Enfin, c'est bête, j'aurais pas cru que ça existait, en fait. Et ça fait très plaisir.
Marie, là encore, cas différent, puisque finalement, il y a une activité professionnelle et puis l'activité d'auteur, j'ai bien noté, qui vient se greffer dessus.
Alors, moi, j'ai fait un choix à un moment donné, puisque je suis encore pigiste, mais très peu, qui a été que bah, je me suis un petit peu arrêtée avec une carrière derrière moi. Je me suis dit, la vie est courte et c'est maintenant. Donc, c'est renoncer à certaines choses. Mais en gagner d'autres qui sont très précieuses, à savoir passer 90% de son temps à faire ce qu'on a besoin de faire. Voilà. Donc moi j'écris des romans, les miens, j'écris de la BD, les miennes, et je fais un peu de pige pour voilà. Mais c'est, je ne vis que de ça, quoi.
Le mot besoin, il est Il est presque effrayant.
Oui, alors bon, oui, bah, je pense qu'on, en fait, je crois qu'on est tout. Enfin, je ne peux pas concevoir qu'on mette autant d'énergie dans quelque chose si ce n'était pas profondément lié à quelque chose en nous. Après, chacun joue sa vie, son rôle, ses propres besoins. Mais oui, je crois que c'est un besoin.
Enfin, mais il y a du plaisir quand même.
Oui, il y en a, mais pas beaucoup. Dans ce qui me concerne, c'est plutôt de voir le livre fini qui est un plaisir. Voilà. Et d'avoir les retours de lecteurs et de les rencontrer et de nouer des choses. L'enfantement n'est jamais très agréable.
On remet 20 fois, 100 fois sur le métier son ouvrage.
Ouais, ouais, c'est vraiment ça. Ouais.
C'est pas un premier jet qui arrive seul. Ah bah,
dans mon cas, non, en tout cas. Enfin, certainement pas. Déjà, le premier jet, il faut le pondre.
Lucius, vous nous avez expliqué votre parcours si particulier où vous avez fait beaucoup de choses pour finalement redevenir écrivain. Est-ce que finalement, il y a eu aussi cette réflexion sur comment gagner sa vie? Vous nous avez expliqué finalement tout à l'heure qu'à un point... il valait peut-être mieux carrément devenir écrivain que toute autre chose, mais il n'empêche, il y a quand même cette question matérielle qui se pose.
Is earning a living a consideration for you? You think, oh, I must earn some dollars to pay the rent and the like.
That's really the only consideration. You know, it's, you know, yeah, it's, you know, it's what I do for a living. You know, so it's like. But I enjoy writing. I've grown to like it over the years. Like, and there are moments when you write when you feel like, you know, you're really, you know, wow, this is like great, you know. But then there, mostly you say, oh, geez, look at that mess, you know. Like, you know, like, you know. So I mean, yeah, it's kind of depressing, you know. But like, you know, you get over that. Like, and it's nice when people tell you they like your work. And I mean, it doesn't mean anything because then you have to go back and do more of it. But like, I mean, it's a good feeling. It's like your cat must feel when you get a pat on the head, you know. Like, so, you know, yeah, I feel good.
You want me to pat your head?
Mais en fait, Lucius répond que c'est le gagner sa vie. Oui, c'est l'essentiel. C'est la seule chose. Enfin, disons, c'est la première chose à prendre en compte. C'est son métier. Et il est écrivain. C'est son métier et il aime ça. Parce que bon, même si au jour le jour, au quotidien, il y a des moments où il regarde ce qu'il a écrit, il dit, mais qu'est-ce que c'est ce foutoir, il n'y a rien, ça ressemble à rien, bon, ça peut être des moments très déprimants. Et puis il y a d'autres, quand il est en état de grâce, il dit, ah ben là, regarde ce que j'ai fait, là, c'est formidable, quoi. Et donc, ça peut être un plaisir, même si c'est un plaisir douloureux, c'est un plaisir qui se mérite, mais ça, quand même, ça le pousse à continuer. Et puis sans compter, ce qu'il apprécie beaucoup aussi, c'est bon, ben, de recevoir en retour quand les lecteurs lui disent « Ah, j'adore ce que vous faites » ou quand il reçoit des prix littéraires, des bonnes critiques, etc. Bon, c'est un peu comme quand on se fait taper sur la tête quand on est gamin, mais ça fait partie du jeu aussi, voilà.
Si je peux me permettre, j'aime beaucoup le plaisir douloureux.
C'est l'oxymore du jour.
Free translation, I said it was a painful pleasure to write. And she loves it.
Alors Sylvie, justement, là aussi, un plaisir, une douleur, l'écriture, une nécessité pour se nourrir. Ou là, justement, est-ce qu'il y a d'autres aspects qui entrent en jeu?
C'est un peu des deux, parce que quand j'ai commencé, il n'y avait pas du tout la même écologie de l'édition qu'il y a maintenant. C'est-à-dire que quelque chose comme Rajlon, ça n'existait pas. Donc la possibilité, quand on avait envie d'écrire de la science-fiction, c'était Le Fleuve Noir, Ailleurs et Demain, PDF, et quelques bricoles à côté. Même si on avait vraiment envie de ne faire que ça, c'était quand même extrêmement difficile. Donc j'ai été pendant assez longtemps professeur d'anglais, donc j'ai arrêté il y a 10 ans. Mais comme j'ai toujours pas fait de best-seller me permettant, je continue à être traductrice et j'écris en même temps, avec des alternances de moments où je ne fais que traduire et des moments où je ne fais que écrire, en fait.
Et sur le plaisir ou la difficulté à écrire, Il y a un ressenti particulier, ça dépend
bah, je pense que j'appartiens à la catégorie des gens qui aiment bien avoir écrit la plupart du temps. Je pense que c'est ça. Ça n'empêche pas qu'il y a des moments où on est quand même très, 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 très content de soi. Mais c'est bon, c'est quand même un peu rare. Ça arrive quand même, hein. Faut pas non plus raconter des bêtises. Mais c'est un travail, c'est comme le reste.
On va terminer, puis on prendra peut-être quelques questions si on a encore un petit peu de temps et qu'on a envie de sortir, ce qui n'est pas gagné. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui vient vous voir en vous disant voilà, j'ai envie d'écrire, de devenir auteur ou écrivain, et qui vous demande voilà, est-ce que vous avez un seul conseil à me donner ?
Ben, mon seul conseil, ce serait écrivez. Vraiment, enfin. Plutôt que de se poser 10 000 questions sur comment publier, j'aimerais faire ça, juste faites-le, finalement, c'est pas plus mal. Enfin, on peut avoir peur, on peut se dire que ce qu'on a fait, c'est pas bon. Enfin, je pense que ça nous arrive vraiment à tous hein, en permanence. Mais aller au bout de son projet, le porter, même s'il faut le retravailler 10 000 fois, au moins c'est fait et c'est ça le premier pas.
Marie ?
La même chose, c'est un muscle. Donc il ne faut jamais abandonner, on a des courbatures, on n'en peut plus, on transpire, mais il faut continuer, jusqu'à devenir un athlète.
Très bien, du travail. Lucius, si vous aviez un conseil à donner
I once asked Isaac Asimov for his advice, and he said become a podiatrist. But, the only thing I, you know, you just, if you're going to write, you just have to write. Most people, you know, who want to be a writer, they think they want to write until it's time to, you know, get down and do it. And like, if you're going to write, you just have to start writing and expect to have, a lot of disappointment, you know, like, and then if you don't, that's great. But, you know, like, prepare yourself for the worst.
Il a un jour demandé le même conseil à Isaac Asimov qui lui a dit devenez pédiatre. Bon, à part ça, il dit essentiellement la même chose que Samantha et Marie. Écrivez, préparez-vous à être très très souvent déçu, mais ne vous découragez pas. Donc écrivez et finissez quelque chose.
Sylvie.
C'est pas grave de se planter. Non mais sérieux, c'est pas grave de se planter.
On apprend plus finalement des échecs.
Ça fait, c'est pas tellement qu'on apprend plus ou moins, c'est que ça fait partie des choses de la vie.
Ça forge le caractère.
Non, je rate ce genre de truc, mais c'est ni positif ni négatif. C'est ce qui est, c'est tout. Ça fait partie des choses.
Est-ce qu'on a des questions dans le public? Ou est-ce qu'on a définitivement découragé tout le monde de devenir écrivain? Non. Bah écoutez, on va vous remercier. On va remercier surtout les auteurs qui étaient présents avec nous. Samantha Bailly, Coup de cœur 2013, Lucius Shepard, Sylvie Denis et Marie Pavlenko pour toutes les explications qu'ils nous ont données. Et puis on va leur souhaiter bon courage pour la suite.
Merci.